Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens. Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le chapitre 16 de Saint-Luc, donc un nouveau fichier informatique, donc sur le PDF. C'est le fichier qui contient les chapitres 16 à 20, à la page 1. Alors commençons avec le premier verset de ce chapitre 16 de Saint-Luc. Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe et celui-ci fut accusé auprès de lui d'avoir dissipé ses biens. Vous voyez que déjà à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait des gens qui dissipaient les biens des autres. Les coutumes se sont très bien conservées actuellement. Alors, les pères de l'Église insistent beaucoup sur un point, c'est que nous ne sommes pas propriétaires en quelque sorte de tout ce que nous donne le bon Dieu, nous sommes des intendants. L'homme est un viateur sur la terre, c'est-à-dire un pèlerin, et il a reçu une intelligence, une volonté, il doit l'utiliser selon les lois que le bon Dieu a voulu pour cette intelligence, cette volonté. Encore une fois, on n'utilise pas son intelligence comme on veut. L'intelligence a pour objet formel le vrai. Et donc, on doit l'utiliser pour découvrir le vrai, et puis l'atteindre avec la volonté. On ne fait pas ce qu'on veut non plus avec notre volonté. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser les biens matériels que le bon Dieu nous donne comme s'ils étaient complètement à nous. Nous sommes des intendants, c'est-à-dire nous sommes des utilisateurs, et nous devons rendre des comptes des actions que nous avons sur ces biens, avec ces biens. Le jour de notre mort, le bon Dieu nous demandera des comptes très exacts de tout ce que nous avons fait. Alors, plus nous avons reçu, plus nous aurons des comptes à rendre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, mais celui qui a beaucoup reçu, il va devoir donner davantage. Donc, en fonction des quantités de biens matériels dont nous avons eu à notre disposition, notre Seigneur Jésus-Christ aura le droit de nous demander davantage de résultats. C'est la parabole des talents. En fait, c'est exactement ça, la parabole des talents. Le bon Dieu va nous demander, poser des questions en fonction du nombre de talents que nous avons reçus. Deuxième chose qui est très importante à comprendre dans ce texte, c'est qu'on voit très bien que l'égalité, encore une fois, n'existe pas. Il n'y a pas d'égalité. D'égalité révolutionnaire, l'égalité républicaine, l'égalité laïque du gouvernement en France, est une gigantesque fumisterie. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas deux âmes identiques, pas deux personnes identiques. Et chacun d'entre nous a reçu de Dieu des bienfaits qui sont différents, tant sur le plan surnaturel que sur le plan naturel. Certes, il y a une égalité de nature. Nous sommes tous des hommes, donc nous avons tous en nous un corps et une âme. Très bien, mais ça s'arrête là. Nous sommes tous créés par Dieu, bien entendu, mais chacun d'entre nous est créé avec des dons différents, des dons de nature et des dons de grâce différents, et donc aura une réponse à donner à ces dons de nature et de grâce qui sera différente selon les personnes. Voilà ce que disent les pères. Bien que les hommes soient les maîtres absolus de leur possession, cependant par rapport à Dieu, qui est le Seigneur de toutes choses, ils ne sont que des intendants. Tout ce que nous possédons nous a été donné pour notre usage modéré, pour aider nos frères les plus pauvres. Et au jour du jugement, nous devrons rendre un strict acompte de notre gestion. Ça, c'est la phrase que nous posera notre Seigneur Jésus-Christ au moment de notre mort, la séparation en nous de notre corps et notre âme, rend compte de ta gestion. Qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? C'est le autant que, pas plus que, de Saint-Ignace de Loyola, qui est un point extrêmement important que nous voyons au début des exercices Saint-Ignace, dans le principe et fondement, qui est l'ouverture en quelque sorte des exercices Saint-Ignace. Saint-Ignace explique bien qu'on a le droit et le devoir d'utiliser les créatures qui nous entourent autant que ces créatures nous aident à atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés, que nous devons au contraire nous couper de ces créatures si ces créatures deviennent pour nous un obstacle. Rappelez-vous la parabole de l'évangile, si ma main droite ou mon pied droit, mon œil droit sont pour moi des occasions de péché, bien, il faut couper, il vaut mieux rentrer au ciel avec un seul œil, un seul pied et une seule main plutôt que de tomber en enfer avec les deux mains, les deux pieds ou les deux yeux. Je vous donne le texte de Saint Ignace pour que vous puissiez, pour ceux qui le connaissent mal. Donc c'est la deuxième phrase des exercices. La première, l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu notre Seigneur par ce moyen sauver son âme. Donc le but est explicité. Immédiatement après, Saint Ignace rajoute les autres choses qui sont sur la terre, c'est-à-dire toutes les créatures. Les autres choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D'où il suit qu'il doit en faire usage autant qu'elle le conduise vers sa fin et qu'il doit s'en dégager autant qu'elle l'en détourne. C'est le « autant que, pas plus que » de Saint Ignace de Loyola qui est fondamental pour nous aider à rester en état de grâce. Lorsque des jeunes s'adressent à moi en me disant « Monsieur Levé, voilà, je pense me diriger vers telle formation professionnelle, vers telle université, tel milieu d'études. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ?» Je dis toujours la même chose, je dis « Mais il faut d'abord vous assurer que vous êtes capable de vivre en état de grâce dans ce milieu dans lequel vous allez rentrer. » Donc, puisque vous êtes convaincu que le but de votre vie, c'est sauver votre âme, j'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver mon âme. On est créé pour ça, on est créé pour aller au ciel. Donc je rentre dans un milieu professionnel, je rentre dans un milieu étudiant, je rentre dans un milieu de travail, quel qu'il soit. Est-ce que je vais être capable de rester en état de grâce dans ce milieu? Il faut avoir l'honnêteté de faire un examen de conscience. Si j'ai commencé une activité scolaire, une activité universitaire, une activité professionnelle quelconque, et que je me rends compte au bout de quelques temps que je ne suis pas capable de rester en état de grâce dans ce milieu, c'est que mon Dieu ne veut pas que j'y reste. Hein. Je n'ai pas le droit de rester, de jouer avec mon âme et de jouer avec le salut de mon âme. Donc si tant que vous êtes capable de rester en état de grâce dans le milieu dans lequel vous êtes, vous avez le droit d'y rester. Mais si vous n'êtes pas capable de rester dans ce milieu-là sans offenser Dieu, vous vous rendez compte que vous êtes constamment en état de péché mortel, c'est que le bon Dieu ne vous parle dans ce milieu-là. Ou en tout cas, part tout de suite, puisque vous n'êtes pas capable d'y rester en état de grâce. Les pères précisent, tous nos dons et possessions ne sont pas nôtres, mais appartiennent à Dieu qui nous les a confiés. Nous sommes donc des intendants. C'est-à-dire des ouvriers, si vous voulez, qui ne sont pas propriétaires de tout ce qu'ils reçoivent. On leur prête, on leur confie. Le Dieu nous confie un certain nombre de choses pour que nous les utilisions à son service et pas à notre service à nous. Nous devons donc ainsi utiliser ces créatures non selon notre bon plaisir, mais selon sa volonté à lui, la volonté divine. Vous êtes un génie, vous avez une grande intelligence, une mémoire sûre, de la sagesse, de l'éloquence, etc. N'oubliez pas, disent les pères, que vous n'êtes que l'intendant de tous ces biens et non leur maître. Vous devez rendre compte de l'usage que vous en avez fait et prendre grand soin de ne les utiliser que pour l'honneur et la gloire de Dieu. Alors attention, il faut bien comprendre la phrase. Il n'est pas mauvais d'utiliser les différentes créatures qui sont autour de nous pour nous aider aussi à payer les factures que nous devons payer de chaque mois, pour élever nos enfants, élever notre famille, protéger notre famille, etc. Ça, c'est pas mauvais du tout. Mais tout doit être placé sous le principe et fondement. J'ai été créé pour louer, honorer, servir Dieu et sauver mon âme. Donc, je nourris mes enfants, je nourris ma famille, je protège ma famille, afin de louer, honorer, servir Dieu, sauver mon âme, afin que mes enfants, mon épouse, mon époux, puissent louer, honorer, servir Dieu, sauver leur âme. Il est une opinion fausse, dit Saint Jean Chrysostome, ou la page 1, qui consiste à croire que toutes les bonnes choses de cette vie nous appartiennent, que nous en sommes les propriétaires. Ça, c'est le monde moderne, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, avec cette fausse égalité, il y a un deuxième poison, ce qui est la fausse liberté. La liberté, égalité révolutionnaire, la liberté et l'égalité révolutionnaire rendent impossible le salut de l'âme, tout simplement. Parce que je suis libre, prétendent les révolutionnaires modernes, je suis libre de faire ce que je veux. Ben non, vous n'êtes pas libre, monsieur. Parce que vous avez été placé sur la terre par celui qui a fait la terre, le ciel. Au début, le Seigneur a créé le ciel et la terre. Tout est centré sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre est le lieu de l'incarnation. Le lieu de l'incarnation, donc tout tourne, on voit très bien dans la création du bon Dieu, tout tourne autour de la terre. Lieu de l'incarnation, là où notre Seigneur Jésus-Christ va venir dans sa divinité s'unir à notre humanité pour mourir sur la croix. Donc c'est le mystère de l'incarnation, le mystère de la rédemption. Donc il n'y a pas d'incarnation et de rédemption autre part que sur la terre. C'est pour ça que tous ceux qui me parlent d'extraterrestres, d'entités spirituelles, d'entités rationnelles, des petits hommes verts avec une intelligence, autres qui sont ni anges ni hommes, racontent n'importe quoi. Dieu a voulu créer dans sa création, il a créé des choses matérielles, des animaux, sans raison, il a créé des êtres spirituels. Il n'a créé que deux sortes d'êtres spirituels, les anges et les hommes. Les anges sont des purs esprits, sont des êtres spirituels. Et les hommes qui sont l'union d'un corps et d'une âme. Donc, en dehors de ces deux choses, il ne peut y avoir d'autres créatures de Dieu, parce que tout a été créé par Dieu, il ne peut y avoir d'autres créatures de Dieu qui soient raisonnables, qui soient autres que des anges ou des hommes. Donc, ne vous laissez pas influencer. Beaucoup de gens ont peur. On dit, mais monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, en suivant cette façon traditionnelle d'expliquer les choses, vous niez la science. Mais pas du tout. Je nie pas du tout l'importance de la science. N'oubliez pas que tous les premiers grands scientifiques, en général dans le monde entier, tous les premiers grands scientifiques, surtout en Europe, c'est très, très clair, on voit très bien ça au Moyen-Âge, tous les premiers grands scientifiques étaient tous des gens d'église. Vous savez, on a tendance à penser que l'homme moderne est suprêmement intelligent. En fait, l'homme moderne est d'une intelligence tout à fait minuscule, surtout par rapport à l'intelligence des gens au Moyen-Âge. Quand vous voyez, prenez par exemple le chantier d'une cathédrale au Moyen-Âge, au XIIe siècle, cathédrale romane, cathédrale gothique, on serait incapable, absolument incapable, de construire ces monuments extraordinaires qui ont été construits pour la plus grande gloire de Dieu. Avec des moyens qui apparaissent aujourd'hui complètement dérisoires. Ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas d'outils pneumatiques, ils n'avaient pas de monte-charge extraordinaire. Tout était fait à la main. Ça ne les a pas empêchés de monter à 40 ou 50 mètres de haut des blocs de pierre de plusieurs centaines de kilos. On serait incapable de faire ça aujourd'hui. Pourtant, ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils n'avaient pas d'ordinateur, mais ils avaient la foi. Chose qu'on a perdue, et ils avaient l'ardeur au travail, chose aussi qu'on a perdue. Donc, Saint Jean Chrysostome, une deuxième phrase, il dit, après avoir dit l'opinion fausse, se méfier d'une opinion fausse qui prétend que toutes les choses de cette vie nous appartiennent, que nous en sommes les propriétaires, Saint Chrysostome précise, nous ne sommes que des étrangers, des invités dont le départ est proche. Nous sommes des viateurs. Viateurs, ça veut dire ceux qui sont sur la via. La via, c'est le chemin. Nous sommes des pèlerins. Pèlerins qui partons d'un endroit pour aller à un autre endroit. On part du sein de notre mère, dans lequel nous avons été créés par Dieu, par l'action physique de nos parents. Dieu a créé un enfant, va créer un enfant dans le sein de sa mère. Après l'union des gamètes, il va donner une intelligence, une âme déjà à cet enfant, même si ce n'est pas très bien utilisé son intelligence au début. Et ce début de vie sur la terre va s'achever à la mort. À la mort, on change de vie. On passe du temps à l'éternité, on passe des choses secondaires aux choses importantes, des choses accidentelles aux choses substantielles. La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps, et à ce moment-là, on passe dans une des deux éternités. Soit une éternité de bonheur si je peux mourir en état de grâce, soit une éternité de malheur si j'ai le malheur de mourir en état de péché mortel. Bon, il y a une exception pour ceux qui meurent sans l'usage de la raison, qui ne sont donc pas responsables de quoi que ce soit autre que le péché originel. Par exemple, un enfant, qui est un bébé, qui meurt dans le sein de sa mère, tué par un infanticide, par l'avortement, eh bien, il va pas aller en enfer, évidemment, parce qu'il n'est pas responsable d'un péché mortel personnel. Il ne va pas aller au ciel non plus, il ne peut pas y aller, puisqu'il a le péché originel en lui, eh bien, il va aller au limbe. Donc les limbes, c'est un endroit un peu spécial, mais il y a pas deux, mais trois possibilités, soit l'enfer, soit le paradis, soit les limbes pour ceux qui meurent avec le seul péché originel. Nous ne sommes donc que des étrangers, des invités dont le départ est proche. Il faut y penser souvent, nous sommes dispensateurs des biens d'un autre, il y a des biens qui ne nous appartiennent pas. Nous devons donc assumer la modestie, l'humilité d'un attendant, car rien n'est à nous et tout est don de Dieu. Et le monde moderne, c'est très net dans le monde républicain actuel, dans le monde laïque, démocratique actuel, on essaie de nous faire croire que nous sommes propriétaires de nos propres biens. Non, nous ne sommes que les attendants. C'est-à-dire quoi ? Les intendants, ça veut dire que nous ne sommes que des instruments, des viateurs, des pèlerins. Il faut méditer là-dessus. Un intendant, ce n'est pas un patron. Un intendant, c'est un intermédiaire, quelqu'un qui utilise quelque chose qui ne lui appartient pas avec des règles du jeu, des règles d'utilisation de matériel intellectuel et spirituel qu'il n'a pas faites lui-même. Comme quelqu'un qui achète un matériel, qui achète une machine, eh bien, il y a un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, c'est l'ingénieur qui a fait la machine, qui l'a écrit. Eh bien, il faut suivre ce mode d'emploi si vous voulez que la machine fonctionne correctement. Si vous voulez n'en faire qu'à votre tête, eh bien, la machine ne fonctionnera pas correctement, vous allez tout casser. Celui qui est aujourd'hui riche devient soudainement un mendiant. Qui que vous soyez, disent les pères, n'oubliez pas que vous n'êtes que les dispensateurs des choses des autres, que les privilèges dont vous jouissez sont brefs et passent rapidement. Donc les pères de l'Église vont utiliser deux termes, dispensateur et intendant. Ce sont deux termes similaires. L'intendant, le dispensateur, c'est celui qui va utiliser des biens qui ne lui appartiennent pas, dont il est responsable. Il n'est pas propriétaire. Donc, nous ne sommes que des dispensateurs des choses des autres et que les privilèges dont vous jouissez sont brefs, disent les pères, et passent rapidement. Jetez donc loin de vous l'orgueil du pouvoir. Si nous ne traitons pas nos biens selon le bon plaisir de Dieu, mais abusons d'eux selon notre volonté propre, nous serons des intendants coupables. Et au jour du jugement, notre Seigneur Jésus-Christ va nous mettre à droite ou à gauche, soit avec les brebis, soit avec les boucs. Si je n'ai fait qu'à ma tête et que je me suis cru propriétaire de mon intelligence et de ma volonté, que j'ai cru que je pouvais faire ce que je voulais de mon intelligence, de ma volonté et de mon cœur, eh bien, je vais me retrouver avec les boucs. Si au contraire, j'ai compris que j'avais reçu de Dieu une intelligence, une volonté, un cœur, pour le servir, pour faire le tri dans les créatures qui étaient autour de moi, afin de ne garder que ce qui était bon pour moi, à ce moment-là, je serais mis avec les brebis. Donc, si vous voulez, on touche là à une autre notion qui est extrêmement importante. La République moderne, la République qui nous entoure, ce fiasco notamment politique, mais ce fiasco économique qui nous entoure, ne pense qu'à une seule chose, c'est aux droits des hommes. Le catholique est quelqu'un qui pense à ses devoirs. C'est pour ça qu'on est non seulement dans deux sphères différentes, dans deux mondes différents, mais sur deux planètes complètement différentes. autour de moi, dans le monde moderne, les gens du monde moderne, les gens qui ont été formatés par le gouvernement actuel, ne pensent qu'une seule chose à leurs droits. Un catholique, c'est quelqu'un qui pense à ses devoirs. Mes devoirs par rapport à mon supérieur. Mon supérieur, c'est Dieu. À tous les mêmes supérieurs. Et donc, j'ai des devoirs à remplir. On le voit très bien, c'est un détail, mais on voit très bien, j'ai parlé tout à l'heure du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, cette notion de devoir était à l'intérieur même des esprits. Tous les hommes savaient qu'ils avaient d'abord des devoirs à remplir. Aujourd'hui, cette notion de devoir a été complètement supprimée, on ne pense plus qu'à nos droits. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à sauver nos âmes. On peut donner un exemple. Au Moyen-Âge, la société était stable. Pourquoi il y avait cette stabilité de la société? Parce que non seulement les gens avaient conscience de leurs devoirs, mais sur plan industriel, sur plan économique, sur plan politique, même tout était fondé sur la corporation qui suivait la loi naturelle. Un système de classement vertical de la société avec les supérieurs au-dessus, les têtes au-dessus, et puis toute une série de corps intermédiaires qui arrivent depuis l'évêque protecteur au sommet de la corporation jusqu'à un petit gamin de 10-12 ans qui va être mis en apprentissage dans un atelier, qui va apprendre à commencer par ramasser les copeaux dans l'atelier, à manœuvrer, à manier un balai. Et les choses étaient organisées, les choses étaient ordonnées. Quand on parle de devoir, on parle d'ordre. Dès qu'on a conscience de ses devoirs à remplir, on est dans une société ordonnée, organisée. Dès qu'on ne pense qu'à ses droits, on est dans une société de désordre. C'est pour ça que le système corporatif était un système fondé sur la révélation. Alors, le contraire du système corporatif, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas oublier que la première chose qu'a fait la Révolution en 1789, c'est de supprimer le système corporatif et de remplacer un système vertical qui suivait les lois de la nature, la loi naturelle, par un système horizontal, le système qu'on appelle le système syndical. Bon, ça ne s'appelait pas comme ça à la Révolution, mais c'est en fait ce que c'est devenu. On a mis par terre le système corporatif qui a été mis en place par Saint-Louis, roi de France, et on a remplacé ça par un système. On a détruit le système corporatif pour le remplacer par un système syndical, système horizontal. Le système corporatif est fondé sur la charité à l'intérieur de la corporation. Le système syndical est fondé sur la haine, la jalousie, l'orgueil, la jalousie constante contre celui qui est au-dessus. Donc une classe horizontale va être constamment jalouse, avoir de la haine contre la classe qui est au-dessus, même en fait de la classe qui est en dessous. Et donc on va séparer la société en strates, et en montant les strates les unes contre les autres. C'est ce qu'on appelle la dialectique révolutionnaire. Ça, c'est Hegel et Marx. Et donc, il faut être constant pour justement éviter d'abuser de notre volonté propre et de devenir des intendants coupables. On ne peut pas faire une société catholique organisée avec le système syndical. C'est impossible. Donc, si on veut revenir à une société équilibrée, une société ordonnée, il faut reprendre le système corporatif. Alors, pour reprendre le système corporatif en France, il faudrait rechanger complètement toute la société. C'est pour ça qu'on ne peut pas lutter contre la révolution en utilisant les principes mêmes de la révolution. Donc, c'est ou la révélation, système corporatif, ou la révolution, système syndical. Verset 2 du chapitre 16 de Saint-Luc. L'homme riche appela son économe et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de vous? Rendez compte de votre gestion, car vous ne pourrez plus désormais gérer mon bien. » On voit cette phrase « Rendez compte de votre gestion » qui va être réutilisée après dans d'autres endroits de l'Évangile. C'est ce que va nous demander notre Seigneur Jésus-Christ le jour de notre mort. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, la première question que va me poser le bon Dieu, c'est « Rends compte de qu'as-tu fait des dons que je t'ai donnés? Rends compte de ta gestion. Est-ce que tu es en état de grâce ?» Celui qui est en état de grâce peut dire « J'ai rempli mon contrat entre Dieu et moi parce que je me suis occupé de mes devoirs. » Et celui qui a rempli ses devoirs devant Dieu, le jour de sa mort, va pouvoir utiliser un droit strict au salut. Quelqu'un qui meurt en état de grâce a un droit strict au salut parce que Dieu a promis que tous ceux qui mourraient en état de grâce seront sauvés. Et N'oublions pas que ce que les pères de l'Église appellent la grâce des grâces, c'est quoi? La grâce des grâces, c'est la mort en état de grâce. La grâce de la bonne mort. La grâce de la bonne mort, c'est l'union de l'instant de la mort avec l'état de grâce. Si je suis en état de grâce le jour de ma mort, alors là je peux aller au ciel. Je passerai au purgatoire, bien sûr. La plupart du temps, il y a très très peu de gens qui... Je ne sais même pas s'il y en a, à part à toi Seigneur Jean-Marie, très peu de gens qui peuvent aller directement au ciel, sauf les martyrs. Les martyrs vont directement au ciel, parce qu'ils meurent dans un acte de charité parfaite. Toute personne qui meurt dans un acte de charité parfaite évite le purgatoire, va directement au ciel. Toute personne qui meurt dans un acte de charité, mais qui n'est pas un acte de charité parfaite, va passer par le purgatoire. Le Christ donc nous dira le jour de notre mort, rendez compte de votre gestion. Votre vie, vos biens, vos talents, les avez-vous utilisés pour promouvoir la gloire de Dieu, votre salut et le salut du prochain? On voit 13 étapes. La gloire de Dieu, j'ai été créé d'abord pour sauver mon âme et donc assurer la gloire de Dieu. Donc au sommet de la pyramide, si vous voyez, il y a la gloire de Dieu, puis le salut de mon âme et en dessous, le salut du prochain. Donc le bon Dieu va d'abord vérifier que je suis en état de grâce, que j'assurais mon salut. Et ensuite, vérifier aussi que je me suis occupé du salut du prochain dans la mesure où ce salut du prochain dépendait au moins en partie de moi. On a tous tous ceux qui ont des enfants, par exemple, ils sont responsables d'autres âmes. Vous avez des âmes à charge. Qu'est-ce que ça veut dire, une âme à charge? Un père de famille, une mère de famille qui a une âme à charge, un chef de famille qui a une épouse à charge, des enfants à charge, est responsable au moins en partie du salut de l'âme de son épouse, du salut de l'âme, des âmes de ses enfants. Donc il y a 3 étapes. La gloire du bon Dieu, qui est le but. La fin. Saint Thomas dit que la fin est première dans l'intention, même si elle est dernière dans l'exécution. C'est à la fin qu'on ira au ciel, mais il faut que ce soit notre axe de vie pendant toute notre vie. Il faut y penser dès maintenant, même si dans la pratique, on aura la possibilité d'aller au ciel qu'après notre mort, si nous mourons en état de grâce. Donc première chose, tout à fait en haut, la gloire du bon Dieu. La gloire du bon Dieu qui sera manifestée aussi par notre salut. Dieu augmente sa gloire accidentelle par le salut individuel de chacune des créatures raisonnables qu'il a mis sur la terre et le salut du prochain. Si j'avais un petit texte que j'ai trouvé chez les pères, Climacus relate qu'un moine qui devint abbé vit dans un rêve pendant sa première nuit au monastère un homme qui lui demanda le paiement de 100 livres d'or, 50 kilos d'or. Pendant 3 ans, il s'exerça à l'obéissance et à la mortification dans le monastère. Il revit alors en songe le même homme qui lui dit que 10 livres avaient été déduits de sa dette. Et un moine qui vit avec les 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, et qui est fidèle à sa règle, peut, avec la grâce du bon Dieu, assez facilement sauver son âme, s'il est fidèle à sa règle. Pourquoi? Parce qu'il aura les 3 moyens d'éviter les concupiscences, le vœu de chasteté contre la concupiscence de la chair, le vœu de pauvreté contre la concupiscence des yeux, et le vœu d'obéissance contre la concupiscence de l'orgueil. Avançons, en bas de la page 1, avec les versets 3 à 7 du chapitre 16 de Saint Luc. Alors l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte la gestion de mon bien ?» La gestion de son bien, travailler la terre, je ne le puis, et je rougis de mendier. Je sais ce que je ferai, afin que, lorsque j'aurai été destitué de la gestion, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Ayant donc fait appeler chacun des débiteurs de son maître, il disait au premier, « Combien devez-vous à mon maître ?» Il répondit, « 100 mesures d'huile. » Et l'économe lui dit, « Prenez votre obligation, asseyez-vous vite et écrivez 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et vous, combien devez-vous ? » Il répondit, « 100 mesures de froment. » Et il lui dit, « Prenez votre obligation et écrivez 80. » Donc nous en sommes à la page 2 maintenant. Voyons un petit peu ce que disent les pères. Après cette vie, symboliquement, après cette vie, la componction ne peut plus préparer votre âme à donner du fruit, même en travaillant la terre. C'est trop tard. On peut changer notre état de vie lorsque nous sommes en mouvement, en passage de la puissance à l'acte. Il faut être donc dans le temps. Par définition, lorsque nous sommes en dehors du temps, eh bien, nous ne pouvons plus changer. Sans passage de la puissance à l'acte, le mouvement est impossible. Et donc, il n'y a plus de mouvement possible lorsque nous avons quitté le temps. Lorsque nous sommes en enfer, malheureusement, nous sommes hors du temps. Lorsque nous sommes au paradis, heureusement, nous sommes hors du temps aussi, mais cette fois-ci, on est dans un éternel présent parce que justement, le temps s'est arrêté. On est dans l'éternité. Donc, mendier, ici le texte parle de la mendicité. Je rougis de mendier, dit l'intendant. Mendier, comme l'ont fait les vierges folles, ce sera sans fruit et vain. Les vierges folles ont mendié l'huile pour alimenter leurs lampes, mais elles ont dû partir pour en acheter de l'huile parce qu'elles n'avaient pas prévu justement d'attendre. Elles avaient voulu obtenir le résultat sans prendre les moyens pour l'obtenir, et donc elles vont être absentes lorsque l'époux va arriver, et donc elles vont se retrouver à la porte. La mendicité, disent les pères, ne vous apportera rien comme les vierges folles qui retournèrent les mains vides. La faiblesse dans l'action est la conséquence d'une vie paresseuse, car personne ne maigrira qui s'est habitué au travail. Donc, le travail favorise le salut. Il n'y a pas de paresse chez les ouvriers de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui est terrible. Le monde moderne est un monde qui favorise constamment la paresse. Au contraire, le monde du Moyen-Âge, le monde chrétien, est un monde qui favorise le travail, le travail bien fait. On voit très bien dans le monde moderne, c'est terrible chez beaucoup de jeunes, ils n'ont plus qu'une seule idée en tête, c'est de vivre des assistances gouvernementales. Et donc, cette mentalité d'assister, c'est une mentalité de paresse chronique. On ne veut plus rien faire, puis on attend tranquillement que tout ça nous tombe dans le bec avec ce projet gouvernemental actuel. Quand on nous rabat les oreilles maintenant très souvent, d'avoir une espèce de revenu universel sans avoir à travailler, c'est un peu ça. Maintenir les gens dans la paresse totale pour qu'ils ne pensent qu'à une seule chose, du pain et des jeux. La nourriture et jouir, et puis c'est tout. Et puis donc je serai un esclave docile à la volonté humaine de mon maître. Je ne poserai pas de questions du moment que j'ai du pain et des jeux, j'ai tout ce que je veux. Je ne demande rien d'autre. Alors, les pères disent qu'allégoriquement, c'est un sens allégorique de ce texte, après la mort, il n'y aura plus de temps pour travailler, puisqu'on ne sera plus justement dans le temps. Au moment de la mort, séparation de l'âme et du corps, on passe du temps à l'éternité. J'ai déjà expliqué. La vie présente contient la pratique de ce qui est commandé, mais la vie future donnera la consolation. Cette consolation pourra l'avoir que lorsque nous serons sortis du temps, si nous sommes en état de grâce. Si malheureusement je ne suis pas en état de grâce au moment de la sortie du temps, eh bien à ce moment-là, ça sera une éternité de malheur. Mais il faut vraiment méditer là-dessus. Le bon Dieu actuellement nous donne quelque chose qui s'appelle le temps. Pensez à ceux qui sont en enfer aujourd'hui, ce qu'ils donneraient pour avoir 5 minutes pour pouvoir aller se confesser. Ils donneraient tout l'or du monde pour pouvoir se confesser, retrouver l'amitié du bon Dieu. Mais lorsqu'ils tombent en enfer, les damnés ne peuvent plus rien changer parce que précisément ils sont hors du temps. Étant hors du temps, ils sont dans l'incapacité métaphysique de changer quoi que ce soit de leur situation. Elle est définitive. Passons au verset 8 du chapitre 16. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi habilement, car les enfants de ce siècle sont dans leur monde plus habiles que les enfants de lumière. Comme cette phrase est exactement actuelle. Quand on voit ce que les gens sont capables de faire pour s'assurer un train de vie matériellement supérieur à celui qu'ils ont, c'est incroyable. Ce que les gens sont capables de faire pour augmenter un peu leur salaire mensuel, ce que les gens sont capables de faire pour une médaille d'or olympique, Ils sont capables de passer des heures et des heures et des heures d'entraînement très, 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 très physique, très, très pénible. Tout ça pour une gloire qui va passer. Je dis toujours aux gens, mais bon sang, bonsoir, si vous passiez la moitié du temps que vous passez à vous occuper de votre corps, à vous occuper de votre âme, vous seriez un saint, une sainte depuis longtemps. Regardez ce que sont capables de faire certaines personnes pour maigrir un peu, pour garder un teint de peau agréable et doux à regarder, pour s'occuper de leur corps. Ils sont capables de faire des fortunes, de dépenser des fortunes. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui avec la chirurgie pour changer ses apparences, changer les liposuctions, tous ces machins-là, pour s'enlever des couches de graisse, pour apparaître beau devant le monde. Ils sont capables de dépenser des millions. Toute leur fortune va passer pour avoir cette chirurgie qui va modifier mon apparence pour que je puisse être plus glamour, comme on dit vulgairement, aux yeux du monde moderne. Si les gens ne s'occupent pas de leur âme, ils s'occupent de leur corps, ils ne s'occupent pas de leur âme. Et on voit cet esclavage du corps, on devient esclave de son propre corps et on oublie son âme. Dans les matières temporelles, disent les pères, nous sommes des philosophes aux yeux de lynx, mais nous sommes des fous et des taupes dans les matières spirituelles. Œil de lynx pour les choses corporelles, œil de taupe pour les choses spirituelles. Je passe tout mon temps pour m'occuper de mon corps et j'oublie que j'ai une âme, alors que le corps ne va pas durer. Le jour de ma mort, le corps va être séparé de l'âme, donc il va être séparé de ce qui donne la vie au corps. Le corps va dépérir, va pourrir, va devenir poussière dans le tombeau, nourriture des vers, alors que mon âme va être jugée et ne va pas être détruite, puisque l'âme va devenir littéralement à ce moment-là comme une espèce de pur esprit, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Mais n'oublions pas que cette âme, elle est capable de connaître Dieu parce qu'elle est immortelle, justement. Donc, œil de lynx pour les choses corporelles. Œil de taupe pour les choses spirituelles. Et on le voit très très bien aujourd'hui. Regardez par exemple cette science des écrans, l'importance des écrans. On veut toujours avoir le dernier ordinateur connu, le dernier téléphone portable un peu plus puissant que celui que j'avais auparavant, qui fonctionne encore très bien, mais je veux changer parce que je veux avoir le dernier cri en toutes choses. Donc on s'occupe des choses matérielles, on s'occupe de tous ces outils et on oublie l'âme. On oublie l'âme qui est pourtant 10 fois plus, des millions de fois plus importante. Et c'est ça qui va être terrible pour tous ces gens qui sont en train de détruire la France aujourd'hui, les membres du gouvernement qui n'ont qu'une idée en tête, c'est détruire la France chrétienne ou ce qu'il en reste. Quand je pense à ça, ça me fait frémir. Imaginez un peu le jugement particulier d'un type comme George Soros ou comme Bill Gates ou comme Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'ils vont dire au bon Dieu le jour où ils vont apparaître devant lui? Ça laisse rêveur. Quand ils vont se rendre compte qu'ils ont les mains totalement vides. Bill Gates a beau être un des hommes les plus riches de la planète, qu'est-ce qu'il a apporté au bon Dieu? Rien, rien, rien. Les mains vides. Et là, il va entendre, s'il ne se convertit pas avant, ce qu'il faut espérer, bien sûr. S'il ne se convertit pas avant, c'est pareil pour tous les modernes, il va entendre cette phrase terrible de notre Seigneur: éloignez-vous de moi, maudit, et allez au feu éternel, préparé pour Satan et pour ses anges. Ce sera la fin du grand jeu ce jour-là. Si le serviteur malhonnête fut loué par son maître, combien plus serons-nous loués par le Seigneur Dieu si nous avons œuvré selon sa volonté? Donc il faut comprendre cette louange. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi habilement. C'est une louange purement naturelle. Attention, ce n'est pas une louange surnaturelle. Il s'est occupé des choses matérielles pour essayer de rattraper ce qu'il avait perdu. Mais encore une fois, il est incapable d'utiliser son intelligence pour les choses qui en valent vraiment la peine. Les choses qui en valent vraiment la peine, c'est notre âme qui monte au paradis. C'est ça qui est important. Passons au verset 9, 9 à 11 du chapitre 16 de Saint-Luc. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que, lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Et celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses est injuste aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Faites-vous donc des amis avec les richesses d'iniquité. Ces richesses, disent les pères, sont immorales dans plusieurs sens et causes. Bon, attention, il n'est pas immoral en tant que tel d'être riche. Il n'est pas immoral en tant que tel d'avoir une certaine aisance financière. J'ai connu des hommes magnifiques qui avaient une certaine aisance financière, mais qui ont pris soin de considérer que cette aisance financière qui leur avait été donnée par le bon Dieu, leur avait été donnée pour une raison très précise. Et qui ont utilisé cette aisance financière pour justement aider les pauvres. Je vais donner un exemple. Quand j'habitais à El Paso, au Texas, c'était en 1981-82, j'habitais à El Paso, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique, en Texas, donc dans le sud des États-Unis, la frontière avec le Mexique. Eh bien, nous étions deux prêtres, et nous allions chacun 10 jours au Mexique, puis on revenait vivre ensemble, tous les deux. On avait 10 jours de vie de communauté, puis le deuxième prêtre partait 10 jours. Et il fallait évidemment partir en avion, prenait l'avion à Ciudad Juárez, qui est la ville d'El Paso, côté mexicain. Nous allions au Mexico, puis ensuite à Guadalajara. Mais ces voyages coûtaient très cher, parce qu'il fallait payer l'avion. Pas question d'y aller en autobus, c'était beaucoup trop long. Et donc on y allait en avion. Puis ensuite on prenait l'avion pour faire Mexico, la ville de Mexico, Guadalajara. Puis ensuite Guadalajara, El Paso, ou Ciudad Juárez pour revenir. Mais il était évident que ça coûtait très cher. Eh bien, les dons que nous recevions de nos fidèles au Mexique étaient presque, pas nuls, mais il n'y avait presque rien. On recevait des pesos mexicains qui valaient pratiquement rien, et on payait nos factures à El Paso, on payait nos factures en dollars américains. Eh bien, on a pu remplir cet apostolat pendant des années au Mexique, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de prieuré au Mexique, parce qu'en fin de circuit, le prêtre qui venait de passer 10 jours au Mexique passait voir une dame âgée à Zapotiltic, qui était au sud de Guadalajara, dans l'état de Colima, je crois que c'était. Et on passait voir cette dame qui nous recevait. Elle avait une petite chapelle chez elle. Et à la fin, on passait toujours dans son bureau et nous posait toujours la même question. Combien vous manque-t-il pour payer votre billet ? Et en général, il manquait pas mal. On avait réussi, on arrivait à avoir à peu près 20% du prix du billet avec les dons que nous recevions des gens du Mexique, des fidèles du Mexique. Il manquait 80%. Donc, imaginez que le billet coûtait, je ne sais pas moi, 1000 euros. C'est un exemple que je donne. Eh bien, on avait 200 euros, c'est tout ce qu'on avait. Il manquait 800 euros pour rembourser le prix du billet. Eh bien, nous donnait à ce moment-là ce qui manquait. Et cette personne a permis l'apostolat mexicain tant qu'il n'y a pas eu de prieuré sur place. Au bout d'un certain temps, à l'époque j'étais dans la fraternité Saint-Pélis, on a pu avoir des prieurés sur place. Ça coûtait beaucoup moins cher, évidemment, d'être sur place. Mais cette dame riche a permis l'apostolat et donc le salut de beaucoup, beaucoup d'âmes. Ça nous a permis, par exemple, de prêcher les exercices Saint-Ignace à Guadalajara, aux Zapotiltic, et aussi dans le district fédéral, donc à la ville de Mexico, pendant des années et des années, avec des grosses retraites, des conversions extraordinaires de jeunes surtout, on a eu des retraites de 50, 60, 70 hommes, 70 femmes parfois. Mais pourquoi on a pu prêcher ces retraites ? Parce qu'une personne prenait soin de nous couvrir les frais de voyage. Sans elle, on n'aurait jamais pu faire tout ce travail. Voyez ? Donc, ce n'est pas un péché en tant que tel d'être riche. Malheur à celui qui est riche et qui utilise sa richesse pour ses fins personnelles et qui oublie justement qu'il est un dispensateur et un intendant des richesses qui lui ont été prêtées. Donc voyons un petit peu avec les pères les causes de cette immoralité de la plupart de ces richesses. Donc surtout aujourd'hui, ces richesses sont très, très, très dangereuses, notamment parce que la plupart du temps, ces richesses sont conséquences directes de l'usure. Il faut voir ce que disaient les pères de l'Église sur l'usure. L'usure qui est partout maintenant, tout système bancaire dans le monde moderne est fondé sur l'usure. On vend finalement, on vend artificiellement de l'argent, on fait tourner la planche à billets, mais ça correspond à rien du tout. Auparavant, l'argent était fondé sur l'or. Je veux dire, la richesse était fondée sur l'or, qui était une valeur sûre. Maintenant, c'est fondé sur rien du tout. Donc, toute la banque, le système bancaire dans le monde moderne est fondé sur l'usure, qui est un vol pur et simple. Parce qu'on demande les banques demandent des intérêts exorbitants en faisant constamment payer les remboursements sur les intérêts sans toucher au principal. Donc vous pouvez payer, rembourser vos intérêts pendant des années, des années, des années. Le principal n'a toujours pas bougé. Vous avez toujours la même somme de principal de votre emprunt qui est toujours là et qui c'est un boulet au pied qui ne s'allège pas avec le temps, même si vous continuez de payer des intérêts. Vous voyez? Et donc, l'usure est totalement immorale. La seule chose qui peut justifier une prise d'intérêt, c'est l'inflation. Bon, l'inflation, vous prêtez de l'argent à quelqu'un, vous lui prêtez 1 000 euros pour l'aider à s'en sortir, une passe difficile, et il vous demande de lui prêter cet argent pour une période, par exemple, de 2 ans, et vous savez très bien que dans 2 ans, ces 1 000 euros, ben, ils en vaudront plus que 800 à cause de l'inflation. Eh bien, vous demandez un peu plus pour, en quelque sorte, ne pas perdre. Récupérer l'argent, je vous prête aujourd'hui 1 000 euros, dans 2 ans, vous me rendrez 1 000 euros, ce qui correspond à 1 000 euros que je vous ai prêté aujourd'hui. Et dans 2 ans, les 1 000 euros que je vous ai prêtés aujourd'hui ne représenteront plus que 800 euros. Ben donc, il faudra me rendre un peu plus pour que je récupère ma mise de fonds. Alors là, c'est légitime. Donc, voyons un petit peu ce texte des Pères qui explique l'immoralité de ces richesses. Premier point, les richesses sont souvent amassées par des moyens malhonnêtes. Je viens d'en parler, c'est l'usure. Ces richesses sont fausses et trompeuses, on ne peut jamais compter sur elles, elles sont extrêmement versatiles. Elles passent souvent d'une main à une autre, car elles sont très volatiles. Dans leur grand désir de devenir riches, les hommes sont coupables de fraude, de malhonnêteté, d'affaires louches et de toutes sortes de péchés. Voir ce que les gens sont capables de faire pour augmenter leur train de vie, c'est ahurissant. Ces hommes mauvais, et sans Dieu, estime davantage ces richesses matérielles qui s'évanouissent comme de la fumée que les trésors célestes qui durent. Encore une fois, si les gens faisaient pour leur âme ce qu'ils font, la moitié de ce qu'ils font pour amasser des richesses matérielles, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Hein? Quel heureux échange si les choses terrestres deviennent des choses célestes. Hein? Donc on a un œil, comme reprenant la formule des pères, un œil de lynx pour toutes ces richesses matérielles. Et un œil de taupe pour toutes les richesses qui sont les véritables richesses, c'est-à-dire les richesses spirituelles. Donc l'aumône, disent les pères, est le plus intelligent des arts, car elle ne construit pas un tabernacle terrestre, mais ne procure la vie éternelle. Et les anciens insistaient beaucoup sur ces choses-là, ce sont des choses qui ont complètement disparu. Les anciens, on voit surtout chez les pères du désert, insistaient sur 3 choses. Le jeûne, l'aumône et la prière. Le jeûne, l'aumône et la prière. L'aumône contre la concupiscence des yeux, c'était l'esprit de pauvreté. Le jeûne contre la concupiscence de la chair, c'est l'esprit de chasteté. Et la prière contre la concupiscence de l'orgueil, l'obéissance. Pour les gens au Moyen-Âge, on voit très bien quand on étudie un petit peu la vie au Moyen-Âge, cette vie au Moyen-Âge, justement, était tout à fait fondée sur ces 3 vertus essentielles, 3 actes essentiels. La véritable charité à l'égard du prochain, le jeûne, l'aumône et la prière. J'ai remarqué ça moi-même quand en tant que missionnaire, j'étais dans les pays pauvres, dans les pays en voie de développement, et j'avais remarqué déjà, ça m'avait beaucoup frappé quand je suis arrivé dans ces pays d'Amérique latine, par exemple, Guatemala aussi, je ne connais pas tous les pays de l'Amérique latine, mais je connais pas mal. Et je les ai bien connus parce que j'ai été longtemps missionnaire dans ces pays-là. J'avais remarqué que dans les parties très pauvres, dans ces pays très pauvres, eh ben, l'aumône était fréquente. J'avais remarqué, par exemple, à Mexico, c'est la première chose qui m'avait frappé à Mexico, une ville énorme. À l'époque, elle faisait au moins 20 millions d'habitants. Aujourd'hui, je ne sais pas combien elle fait, encore plus. C'est une des plus grandes villes du monde. Et il y a beaucoup de gens qui faisaient l'aumône. Eh bien, on leur donnait. Je voyais les gens de la rue qui passaient, qui souvent donnaient à ces miséreux qui faisaient l'aumône parce que, ben, ils avaient une jambe en moins, parce qu'ils étaient miséreux. Et vraisemblablement, je pense que ces miséraux étaient véritablement dans la misère, eh bien, ils recevaient. On voyait souvent des gens qui passaient, qui donnaient une pièce. Alors qu'en France, il y a pratiquement personne qui donne, ou très peu. Voyez? Très peu, parce que justement, cet esprit d'aumône a complètement disparu. L'esprit de jeûne a été totalement détruit par l'abondance des biens matériels, l'abondance des biens de nourriture. On pense qu'à manger toute la journée, on oublie complètement le jeûne. Quant à la prière, n'en parlons pas, elle a complètement été détruite, à commencer par la racine de toute vie de prière, à savoir la Sainte Messe, qui a été complètement détruite en 1969. Nous avançons à la page 3. Donc, page 3, versets 12 à 18 du chapitre 16 de Saint-Luc. Vous n'avez pas été fidèle dans. Si vous n'avez pas été fidèle dans tout ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car il vous haïra l'un, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Or, les pharisiens, qui étaient avares, entendaient toutes ces choses et ils se moquaient de lui. Et il leur dit, vous qui cherchez à paraître juste devant les hommes, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est grand pour les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean, c'est Jean-Baptiste dont il s'agit ici. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun fait effort pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la loi vienne à tomber. Quiconque renvoie sa femme et en épouse une autre comme un adultère, et quiconque épouse celle qui a été renvoyée par son mari commet un adultère. Un passage extrêmement important, et surtout deux versets qui me semblent importants à bien comprendre. Nul ne peut servir de maître à la fois. Soit c'est l'adoration du monde, soit c'est l'adoration de Dieu. Deux amours ont fait deux cités, a dit saint Augustin. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a fait la cité du ciel. L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a fait la cité de la terre. Donc il y a un choix, ce qu'on appelle les deux étendards. Encore une méditation essentielle des exercices de saint Ignace qui résume toute la vie spirituelle. Hein. D'un côté, dit saint Ignace, Jésus-Christ qui appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard. Et de l'autre, c'est Lucifer qui les appelle sous le sien. Sur l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la croix et les trois mots, pauvreté, chasteté, obéissance. Et sur l'étendard du monde, l'étendard de Lucifer, il y a trois mots, liberté, égalité, fraternité, le signe de l'argent. Et saint Ignace, je vous lis ce texte qui est pas assez connu des gens, surtout quand on fait des exercices, mais ça explique bien ce verset 13. Une vaste plaine près de Jérusalem, au milieu de laquelle se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, chef souverain de tous les hommes vertueux, et une autre plaine près de Babylone, où est Lucifer, le chef des ennemis, donc deux royaumes, le royaume de Babylone, Babylone ça veut dire la pagaille, la confusion, ou le royaume de Jérusalem, c'est-à-dire le royaume de la paix. Il faut demander donc, dit saint Ignace, la connaissance des ruses du chef des méchants et les secours dont j'ai besoin pour m'en défendre, et secondement, la connaissance de la véritable vie qui nous est montrée par le chef souverain et légitime et la grâce nécessaire pour l'imiter. Alors on peut relire cette méditation, je vous donne le texte parce que c'est vraiment une des plus belles méditations des exercices saint Ignace, et il y a tout dedans, absolument tout. Cette méditation n'a pas pris une ride. Donc d'abord, celui qui sert le démon, eh bien qu'est-ce qu'il a? Voilà ce que dit saint Ignace. Je vais me représenter le chef de bande du parti ennemi, donc le démon, dans cette vaste campagne de Babylone, assis dans une chaire élevée, toute de feu et de fumée, sous des traits horribles et d'un aspect épouvantable. Je considérerai comment il appelle autour de lui des démons innombrables, comment il les répand, les uns dans une ville, les uns dans une autre, et ainsi dans tout l'univers, n'oubliant aucune province, aucun lieu, aucune condition, aucune personne en particulier. Comment il ordonne, leur ordonne, pardon, avec menace de jeter des filets, des chaînes. Ils doivent tenter les hommes en leur inspirant d'abord le désir des richesses, comme il le fait plus souvent lui-même, afin de les conduire plus facilement à l'amour du vain honneur du monde et de là un orgueil sans borne. De sorte que le premier degré de la tentation sont les richesses, l'argent donc, le second les honneurs, l'orgueil, de ces trois degrés, il porte les hommes à tous les autres vices. Donc la caractéristique de ceux qui servent Mammon, le monde, c'est l'amour des jouissances, la recherche constamment de la jouissance, l'amour de l'argent, l'amour des honneurs et l'amour de l'orgueil. Quand vous rentrez dans la franc-maçonnerie, c'est ce que vous propose la franc-maçonnerie, l'argent, l'honneur, les orgueils. Et au contraire, le deuxième camp, ici le verset 13 parle de deux maîtres opposés, donc deux planètes différentes, deux mondes complètement différents, un monde centré sur soi-même dans la haine de Dieu, un monde centré sur Dieu dans la haine de soi-même. Deuxième monde, c'est le monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ notre Seigneur, dit saint Ignace, qui se tient en un lieu humble, dans une vaste plaine des environs de Jérusalem, beau et plein de grâce. Je considérais comment le Seigneur du monde entier choisit un si grand nombre de personnes, les apôtres, les disciples et tant d'autres, et comment il les envoie dans tout l'univers répandre sa doctrine sacrée parmi les hommes de tous les âges, de toutes les conditions. J'écouterai le discours de Jésus-Christ notre Seigneur, le discours qu'il adresse à tous ses serviteurs, à tous ses amis, qu'il envoie à cette expédition, il leur recommande d'aider tous les hommes, en les attirant premièrement en une entière pauvreté spirituelle, et non moins la pauvreté réelle, si la divine majesté est là pour agréable et veut les appeler à cet état. Secondement, on désire des opprobres et des mépris, parce que de ces deux choses naît l'humilité. De sorte qu'il y a, comme au troisième point précédent, trois degrés, le premier, la pauvreté, opposée aux richesses, le second, les opprobres et le mépris, opposés à l'honneur du monde, le troisième, l'humilité, opposée à l'orgueil. De ces trois degrés, ils porteront les hommes à toutes les autres vertus. C'est une méditation clé des exercices. À ce propos, je me permets de vous rappeler les retraites. Donc, j'ai dû annuler la prochaine retraite, la retraite du 26. Attendez, je vous dise pas de bêtises. Du 26 avril au 1er mai, à cause des difficultés avec le confinement pour les gens de venir. Et en principe, je suis plein pour la retraite du 7 juin au 12 juin, mais j'ai encore de la place pour les retraites du 13 septembre au 18 septembre. Et du 18 octobre au 23 octobre. Le deuxième verset qui me semble important ici dans ce passage, que je, la page 3, là, dans les versets 12 à 18, un verset important aussi qui rappelle l'indissolubilité du mariage chrétien. Quiconque renvoie sa femme en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse celle qui a été renvoyée par son mari commet un adultère. Se mettre dans la tête, mes bien chers frères qui m'écoutaient sur Internet, ne jamais oublier que le mariage chrétien est indissoluble et que l'union entre deux baptisés, un mariage ratifié et consommé entre deux baptisés, ne peut être dissous par aucune autorité au ciel et sur la terre. Personne ne peut dissoudre un mariage catholique. Être marié, c'est pour le meilleur, pour le pire. Vous pouvez vous séparer s'il y a des raisons très graves. Il vaut mieux se séparer plutôt que de s'entretuer, c'est évident. Mais vous êtes toujours marié. Et donc les annulations de mariage ne peuvent pas exister pour un mariage ratifié et consommé. Un mariage ratifié et consommé est indissoluble. Il faut rappeler ces choses à temps et à contre-temps. Hélas, il faut bien avouer ce qui est. C'est triste à dire, mais c'est beaucoup, beaucoup des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la Fraternité Saint-Pilice ou qui viennent de l'Église de Vatican II. La Fraternité Saint-Pilice étant, hélas, maintenant une partie intégrante de l'Église de Vatican II. Eh bien, beaucoup ont ces problèmes de mariage, ont été mariés deux fois, puisque la Fraternité Saint-Pilice accepte les annulations de mariage dans certains cas. Eh bien, il est évident que des gens qui ont été mariés deux fois comme ça ne peuvent pas recevoir les sacrements dans l'Église catholique. Hein. Chez nous, c'est impossible. Donc, les gens qui viennent me voir pour la première fois, qu'ils aient le courage de me dire, monsieur l'abbé, j'étais marié deux fois. Bon. J'ai eu un premier mariage religieux. Mon épouse légitime est toujours vivante. Mon époux légitime est toujours vivant. Et je me suis remarié avec devant l'Église de Vatican II avec une autre personne. Et après une annulation de mariage, eh bien, vous ne pouvez pas recevoir le sacrement, c'est nous, c'est impossible. Vous pouvez venir à la messe, mais pas recevoir le sacrement tant que vous n'avez pas réglé la chose devant Dieu, soit par une séparation ou dans certains cas, tout pour les personnes déjà d'un certain âge, vivre vraiment sérieusement comme frères et sœurs. Voilà ce que disent les pères. L'homme fut créé à l'image de Dieu, mais la richesse et les possessions terrestres ne sont pas à nous, car elles ne contiennent rien de divin. Par contre, jouir des bénédictions divines et participer à la nature divine sont des biens personnels. Si vous n'avez pas été fidèle dans les choses terrestres qui appartiennent à un autre, Dieu ne vous donnera pas ces trésors célestes qui pourraient être vraiment à vous. Donc on voit très bien cette différence essentielle entre ces deux mondes, le monde de Dieu et le monde de l'homme, le monde du paradis et le monde d'ici-bas. Donc il faut vraiment faire attention à ces choses-là, se rappeler justement qu'on est sur la terre pour sauver notre âme, donc ne pas oublier ce point absolument essentiel. Voilà, donc nous en sommes au verset 19. Encore une phrase, j'ai oublié de citer les pères. Si vous n'avez pas été fidèles dans les choses terrestres qui appartiennent à un autre, Dieu ne vous donnera pas ces trésors célestes qui pourraient être vraiment à vous. Donc, demandons cette grâce de savoir haïr. Le bon Dieu nous demande d'haïr le monde pour aimer Dieu. Ou nous serons obligés d'aimer le monde pour haïr Dieu. Oui, c'est terrible, mais c'est comme ça que ça se passe. Nous reverrons tout ça la prochaine fois. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.